Philosophie politique par le père Philippe Saint-Joseph, le 1er mai 85.
Nous allons continuer de voir quelques aspects de Machiavel. Ça doit vous intéresser, nous allons vous éveiller à cette attitude politique. Ce qui est intéressant, c'est toute l'influence qu'a eu Machiavel. C'est un représentant, si vous voulez, d'une dégradation, on peut dire. La dégradation de la pensée politique, qui à partir de là est devenue de plus en plus dans une perspective subjective. Vous voyez, la morale de situation est peu de choses à côté de Machiavel, au sens propre. Parce que lui n'hésite pas de montrer d'une façon très très nette ce que représente ce point de vue-là. Alors, je vais vous lire quelques passages, hein, comme vous avez commencé la dernière fois. Quand vous regardez la table des matières, vous voyez que toutes les... Il y a une tactique qui est donnée au point de départ, mais au fond, on peut dire que c'est toutes les vertus qui sont reprises. Alors, je vais prendre de la cruauté et clémence. Et quel est le meilleur d'être aimé ou craint? Je prends ça exprès parce que c'est dans la règle de Saint-Augustin. Vous savez bien, Saint-Augustin se demande s'il vaut mieux pour les supérieurs être aimé ou être craint. C'est amusant de retrouver ça dans Machiavel. C'est intéressant parce que c'est quand même un lieu classique. Vous voyez, c'est quand même un petit peu... Il faut redécouvrir à travers l'histoire de la pensée les quelques grands thèmes qu'on retrouve tout le temps. Le maître et l'esclave. Vaut-il mieux pour celui qui exerce l'autorité être aimé ou être craint? C'est intéressant. Comme nous verrons après le point de vue de la miséricorde, si vous voulez, la magnanimité et la miséricorde. Alors, je vous lis ce passage. Descendant aux autres qualités ci-dessus nommées, je dis que tout prince doit grandement souhaiter d'être estimé pitoyable et non pas cruel. Néanmoins, ça, incoda venenum, néanmoins, il doit bien prendre garde de n'appliquer mal cette miséricorde. César Borgia fut estimé cruel. Toutefois, sa cruauté a réformé toute la Romagne, l'a unie et réduite à la paix et fidélité. Ce que bien considéré, il se trouva avoir été beaucoup plus pitoyable que le peuple florentin, qui, pour éviter le nom de cruauté, laissa détruire Pistoia. Le prince, donc, ne se doit point soucier d'avoir le mauvais renom de cruauté. S'inquiète pas, c'est pas si mal d'être cruel, quoi, pour le prince. Il ne doit pas s'inquiéter trop ça. Donc, on ne doit pas soucier d'avoir le mauvais renom de cruauté pour tenir tous ses sujets en union et obéissance. L'unité se fait un peu dans le fait de maintenir la terreur. Car faisant bien peu d'exemples, là sera plus pitoyable que ceux qui, par être trop miséricordieux, laisse se poursuivre les désordres, desquels naissent meurtres et rapines, car ceci nuit ordinairement à la généralité, mais les exécutions qui viennent du prince ne nuisent qu'à un particulier. Bien commun, bien individuel. Voyez l'application. C'est très curieux. Comment se sait le bien commun est plus divin que le bien particulier? C'est sous-jacent, ça. C'est bien évident. Et alors, on voit très bien qu'il donne ça pour montrer que la cruauté, après tout, ce sera à l'égard d'un individu. Ce serait cruel pour un individu. Mais vous allez montrer à ce moment-là le maintien d'autorité. Et c'est supérieur, le maintien d'autorité, à la miséricorde. La miséricorde, oui, engendrer le désordre. S'il n'y a plus d'autorité, il y aura le désordre. C'est très sophistique, hein, parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. Il y a toujours une part de vérité dans ce qu'il dit. Donc, car ceci nuit ordinairement à la généralité, mais les exécutions qui viennent du prince ne nuisent qu'à un seul particulier. Vous ne coupez qu'une tête. Pas grand-chose. Les exécutions, donc c'est couper la tête. Alors, vous ne coupez qu'une tête et tout le pays demeure dans l'ordre. Tandis que si vous ne la coupez pas, naît l'anarchie. Hein, un petit bout de vérité là-dedans. Entre tous les princes, c'est au prince nouveau qu'est impossible d'éviter le nom de cruel. Le prince nouveau. Les jeunes prieurs, vous voyez bien, c'est ça qu'il a dit. Alors, le prince nouveau. Donc, qu'est impossible d'éviter le nom de cruel parce que les nouveaux états sont pleins de périls. Et de la Virgile, par la bouche de Didon, dit « Res dura et regni novitas me talia cogunt, moliri et late fines custode tueri ». Donc on voit bien, si il n'y a pas cette dureté dans le prince, eh bien on tombera dans quelque chose qui sera trop facile et tous les désordres naîtront à partir de là. Toutefois, il ne doit pas croire, ni agir à la légère, ni se donner peur soi-même, mais procéder d'une manière modérée, avec sagesse et humanité, de peur que trop de confiance ne le fasse imprudent et trop de défiance ne le rende insupportable. Là-dessus naît une dispute. S'il est meilleur d'être aimé que craint, ou l'inverse. Autrement dit, là-dessus, on touche un sujet classique. Il est très informé, hein, il est très cultivé, Machiavel. Hein. Je réponds qu'il faudrait être et l'un et l'autre. Réponse de Normand. Hein, et l'un de Florentin, si vous aimez mieux. Mais comme il est bien difficile de les marier ensemble, il est beaucoup plus sûr de se faire craindre qu'aimer. Il est plus sûr. Hein. Vous voyez la certitude de Descartes. Hein. Plutôt que de chercher la vérité, saint Augustin cherche la vérité. Et saint Augustin dit, il vaut mieux être aimé que d'être craint. Je sais bien, il est dans une perspective chrétienne, hein, où la miséricorde prime sur la justice. Lui, il est dans une justice, dans une perspective purement humaine. Hein. L'aspect chrétien, il existe, il est chrétien, c'est sûr. Mais c'est pas ça qu'il cherche, hein. C'est pas ça qu'il brûle, c'est pas l'évangile. Mais c'est la justice. Alors, dans l'ordre de la justice, il est meilleur d'être craint que d'être aimé. S'il faut qu'il y ait seulement l'un des deux. Car on peut dire généralement une chose de tous les hommes, qu'ils sont ingrats, changeants, dissimulé, ennemi du danger. Vous voyez son anthropologie. Hein. De tous les hommes, voilà ce qu'on doit dire. Hein. Le jugement particulier, son expérience après avoir été au gouvernement pendant un certain temps, voilà ce qu'on peut dire. Omnis homo mandax. Hein. Tout homme est menteur. Alors, il le dit admirablement. Hein. Donc, quand il dit ceci. Car on peut dire généralement une chose, de tous les hommes qui sont ingrats, changeant, dissimulé, ennemi du danger, avide de gagner. Tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur bien, leur vie et leurs enfants, comme j'ai dessus dit, quand le besoin est futur. Mais quand il approche, il se dérobe. Donc, velléité, vous promettez des choses admirables, quand la difficulté est lointaine, quand elle est immédiate, tout ça, c'est assez juste, hein, c'est assez vrai. Et le prince qui s'est fondé seulement sur leurs paroles se trouve tout nu d'autres préparatifs. Il est perdu. Car les amitiés qui s'acquièrent avec argent et non par cœur noble et hautain, on mérite bien d'en éprouver l'effet. mais on ne les a pas. Et dans le besoin, on ne les peut employer. Les hommes hésitent moins à nuire à un homme qui se fait aimer qu'à un autre qui se fait redouter. Car l'amour se maintient par un lien d'obligation. Alors voyez là encore, hein, il parle de l'amour, hein, c'est un des lieux où il parle de l'amour, il n'en parle pas beaucoup de l'amour. C'est intéressant de voir dans sa vision qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le lien d'amitié. Qu'est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pour lui, le tissu de la concordia et de l'amitié? Si vous voulez pas, faites un parallélisme avec Aristote pour la philia. C'est, je crois, le lieu où il exprime le mieux ce que c'est pour lui, cette vision de l'amitié. Car les amitiés qui s'acquièrent avec argent, et non par cœur noble et hautain, on mérite bien d'en éprouver l'effet, mais on ne les a pas. Et dans le besoin, on ne les peut employer. Les hommes hésitent moins à nuire à un homme qui se fait aimer qu'à un autre qui se fait redouter. C'est pas très beau comme sentiment, mais c'est peut-être ut in pluribus. Car l'amour se maintient par un lien d'obligation, lequel, parce que les hommes sont méchants, là où l'occasion s'offrira de profit particulier, il est rompu. Mais la crainte se maintient par une peur de châtiment qui ne te quitte jamais. Ce qui est le plus radical dans le cœur de l'homme, c'est la crainte du bâton, c'est la crainte du gendarme. Vous voyez, tout le traité des craintes dans saint Augustin et la manière dont lui traite cette question. Néanmoins, le prince se doit faire craindre en sorte que, s'il n'acquiert point l'amitié, pour le moins, il fuit l'inimitié. Car il peut très bien avoir tous les deux ensemble, d'être craint et n'être point haï. Ce qui adviendra toujours, s'il s'abstient de prendre les biens et richesses de ses citoyens et sujets, et leurs femmes, et quand même il serait forcé de procéder contre le sang de quelqu'un, il doit ne le faire point sans justification convenable, ni cause manifeste, mais sur toute chose s'abstenir du bien d'autrui. Car les hommes oublient plutôt la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Et puis, les occasions ne manquent jamais pour ôter les biens. Et celui qui commence de vivre de pillage trouve toujours des motifs pour occuper le bien des autres. Mais on en a moins pour le faire mourir et qui passe plus vite. Mais quand un prince conduit une armée, gouvernant une multitude de soldats, c'est alors qu'il ne se faut nullement soucier du nom de cruel. Car sans ce nom, une armée n'est jamais unie ni prête à aucune opération. Entre les admirables choses qu'a faites Hannibal, on raconte celle-ci, qu'ayant une armée fort grosse, mêlée d'infinies nations et conduite à combattre en pays étranger, il ne se leva jamais une seule dissension, ni contre eux, ni contre leur prince, ce qui ne peut procéder d'autre chose que de son inhumaine cruauté. Je crois que ça, c'est très machiavélien. Hein. Une volonté de puissance. Hein. Tout est présent dans la volonté de puissance. Si je fais la philosophie de cela, c'est une matière. Il ne fait pas de la philosophie. Mais c'est quand même sous-jacent. C'est une réflexion sur le ut in pluribus. Je crois que c'est ça la différence entre l'éthique d'Aristote, la politique d'Aristote, et puis ce que Machiavel nous donne. Aristote reconnaît que ut in pluribus, hein, la plupart du temps, les hommes sont incapables d'atteindre leur finalité. Je reconnais. La plupart du temps, les hommes sont dans le conditionnement. La plupart du temps, les hommes sont donc cruels. La plupart du temps, les hommes sont plus facilement maniés par la crainte que par l'amour. Ut in pluribus. Et il fait son éthique et sa politique à ce niveau. Et tous les exemples qu'il donne, c'est toujours pour éclairer ça. Donc, plus aucune recherche de la finalité de la nature. C'est le glissement vers le point de vue du conditionnement. Mais c'est exactement comme ça que certains conçoivent les lois. Vous regardez la manière dont les hommes vivent. Et à partir de là, vous donnez la constante de leur manière dont ils vivent. Et vous établissez une loi. Ça, c'est une loi au sens de Machiavel. Vous ne regardez pas la finalité, vous ne recherchez plus la nature. Alors que dans la perspective d'Aristote, la philosophie consiste à rappeler, même si on est le seul à le rappeler, ça n'a pas d'importance, on sera le dernier à tenir le drapeau. Il faut quelqu'un qui tienne le drapeau. Même si on est le seul, ça n'a pas d'importance. C'est ce que dit Peggy. Hein. Le philosophe, c'est celui qui remonte à la source. Lui, il regarde tous les gens qui descendent le fleuve. C'est la philosophie des gens qui descendent le fleuve. Et on est le prince de ceux qui descendent le fleuve. Et parce qu'on est le prince de ceux qui descendent le fleuve, on doit descendre le fleuve plus vite que les autres. Pour rester prince. Ça ne peut pas être autrement. Il faut bien. À ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que c'est anti-philosophique. D'une façon intelligente. Et très intelligente, d'une façon très fine. C'est la finesse florentine, hein, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien du tout cette finesse. Et c'est plein d'intelligence, mais une intelligence qui est entièrement au service du conditionnement. Je regarde les choses, et je fais des lois, et j'essaie de décrire ce que ce doit être le prince. Le prince, c'est celui qui exerce l'autorité. Alors sur quoi repose l'autorité ? C'est ça qui serait intéressant de voir. Sur quoi repose l'autorité ? L'autorité consiste à maintenir le suffrage universel. Soyez applaudis par tout le monde, vous maintenez l'autorité. Essayez toujours que les gens vous craignent et qu'ils continuent de voter pour vous. C'est très net, si on est attentif. Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Vous voyez, il y a toute une conception d'autorité, parce qu'il prend le prince, celui qui exerce l'autorité. Alors, sur quoi ça repose ? Ce serait très intéressant de faire une étude philosophique de tout ce qui nous met en dessous. Parce qu'il y a toute une éthique, mais elle n'est pas exprimée. Hein. Elle est venue comme ça, par une espèce de un petit dessin merveilleux. On décrit, on montre ce que c'est que le prince et on montre ce que ça représente. Ce qui ne peut procéder, alors il avait Hannibal, hein, ce qui ne peut procéder d'autre chose que de son inhumaine cruauté, laquelle ensemble avec ses infinies vertus, l'a toujours rendu devant les soldats vénérable et terrible, et sans laquelle ses autres vertus n'eussent pas été suffisantes à produire cet effet. Mais ce bassement de l'efficacité des vertus, la cruauté. Et ceux qui écrivent, sans y bien regarder de près, s'émerveillent de ce qu'il a fait, d'un côté et de l'autre, ils condamnent ce qui en a été la principale cause. Et il y a quand même un petit souci philosophique qui recherche la cause, la principale cause. La principale cause, c'est sa cruauté inhumaine. Et qu'il soit vrai que les autres vertus n'étaient pas suffisantes, on le peut facilement considérer, par exemple, de Scipion, personnage des plus rares, non seulement de son temps, mais aussi de tout temps qu'on sache, et dont les armées se rébellèrent contre lui en Espagne. Ce qui n'advint d'autre chose que de ce qu'il était trop doux et pitoyable. Pitoyable au sens propre, hein. C'est-à-dire qu'il a un sens de la pitié, pas pitoyable dans le sens où nous l'employons quelquefois, pauvre type, pitoyable, non c'est pas ça du tout, doux et pitoyable, ayant donné à ses soldats plus de liberté et licence qu'il n'en fallait pour la discipline militaire, ce qui lui fut reproché en plein Sénat par Fabius Maximus, l'appelant corrupteur de l'armée romaine. Ça l'intéresse beaucoup, puisque l'armée romaine, ça représente quelque chose de particulièrement important pour lui. Alors on voit très bien comment il voit que la douceur et être pitoyable, donc avoir un sentiment de pitié, un sentiment de miséricorde, de condescendance, eh bien ça amène au désordre. Et cette nature eut, avec le temps, gâté la renommée et la gloire de Sismion. S'il eut assez longtemps avec elle occupé le pouvoir, mais vivant sous le gouvernement du Sénat, cette qualité dommageable non seulement n'apparut pas, mais lui tourna en plus grande louange. Retournant donc à ce que je disais d'être craint et aimé, je conclus. Méthode inductive par mode d'exemple, méthode rhétorique par mode d'exemple, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut donner. Retournant donc à ce que je disais d'être craint et aimé, je conclus que puisque les hommes aiment selon leur fantaisie et craignent à la discrétion du prince, le prince prudent et bien avisé se doit fonder sur ce qui dépend de lui, non pas sur ce qui dépend des autres. Il se doit seulement étudier à n'être point haï, comme j'ai dit. Donc, négativement, grande qualité du prince, ne pas être haï. Mais tous les moyens sont bons pour ça. La cruauté sera nécessaire, pas trop, mais la matière toujours sous-jacente, c'est la cause principale. J'allais presque dire la cause première. Hein? La cause principale, c'est ça. Parce que quand il dit cause principale, c'est la cause sous-jacente. Mais c'est pas ça qu'il faut toujours maintenir. Il faut éviter d'être haï. C'est ça avant tout. Alors ensuite, mais on ne va pas tout lire, parce que c'est comment les princes doivent garder leur foi. Chacun entend assez qu'il est fort louable à un prince de maintenir sa foi et vivre en intégrité, non pas avec ruse et tromperie. Ça c'est le slogan habituel, foi et fidélité. Néanmoins, on voit par expérience de notre temps que ces princes se sont faits grands qui n'ont pas tenu grand compte de leur foi et qui ont su par ruse circonvenir l'esprit des hommes. Et à la fin, ils ont surpassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Il faut donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force. Le dilemme est bien posé. La première, dans l'évangile, on dirait l'une par la loi, l'autre par la miséricorde. Hein? Vous voyez bien, Jésus face à la femme adultère, l'opposition qu'on voit entre les deux. L'une par les lois, l'autre par la force. La première sorte est propre aux hommes. La seconde, propre aux bêtes. Mais comme la première, bien souvent, ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. Ce pourquoi est nécessaire au prince de savoir bien pratiquer la bête et l'homme. Dit mixte. Cette règle fut enseignée au prince en paroles voilées par les anciens auteurs qui écrivent comme Achille et plusieurs autres de ces grands seigneurs du temps passé furent donnés à élever au centaure Chiron pour les instruire sur sa discipline. Ce qui ne signifie autre chose d'avoir ainsi pour gouverner une demi-bête et un demi-homme. Donc soyez une brute pour commander, c'est nécessaire. Et soyez à moitié homme. C'est toujours une espèce d'équilibre, hein. Pas de finalité, hein. Absolument pas de finalité. Sinon, donc, ce qui ne signifie autre chose d'avoir pour gouverneur un demi-bête et un demi-homme. Sinon, qu'il faut qu'un prince sache user de l'une ou l'autre nature, et que l'une sans l'autre n'est pas durable. Évidemment, la bête, c'est le genre, ça dure plus longtemps. L'homme, c'est la raison, c'est les lois, c'est plus difficile. Donc si on veut que ça dure, retournons à la bête. C'est le genre. C'est intéressant ici, vous voyez, que Machiavel veut tout simplement dénoncer, proclamer ce qui avant, quand il regarde les Romains, était de fait, mais n'était pas dit. Machiavel veut proclamer ça. Alors ça aussi, c'est très très proche, quand même. C'est très caractéristique de Machiavel. On dénonce et on dit clairement et loyalement. Et c'est aussi très actuel. On dira, avant, les gens vivaient en cachant un peu le conventionnel et puis par derrière. Mais non, disons les choses ouvertement. Voilà. La petite Marthe disait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Très bien dans l'ordre pratique. Aller jusqu'au bout de la sincérité de la vérité. Mettre tout au clair. Attention, c'est quelquefois pire. Machiavel veut ça. Bon, sa vérité, c'est la sincérité. Appelons un chat, demi-bête, demi-homme. Si le prince n'est pas demi-bête, demi-homme, il ne tiendra pas. Parce que pour exercer l'autorité, il faut être une bête. Autrement, on est trop pitoyable, on est beaucoup trop bon. On se sera influencé si on est une bête. Déterminé à Dounoum. Si on est déterminé à Dounoum, il n'y a pas de danger. On pourra dire toutes les réclamations, on pourra venir, vous resterez déterminé. Il n'y a rien de plus déterminé qu'un bœuf. Il n'y a rien de plus déterminé qu'un lion. Ils sont déterminés par l'instinct. C'est ça que ça veut dire, hein. Parce qu'il sait très bien ce que c'est quand il dit bête. Et quand il dit animal, il montre la détermination. Alors, à la place de la finalité, puisqu'il n'y a plus de finalité, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut une détermination, il faut la détermination de l'instinct. Et ça, je crois que c'est constant, ça. C'est pour ça que c'est très important. Je vous dis, Machiavel, c'est un tournant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça. On voit bien ces choses-là. S'il n'y a plus la finalité, on retourne à la bête. Très, très vite. Parce que la bête a un avantage énorme. C'est que son instinct est déterminé de nous. C'est que ça tient le choc, la bête. C'est pas influençable. Tandis que l'homme girouette, il tourne, c'est pas très bien, influençable, à droite ou à gauche. Alors, c'est terriblement gênant, parce qu'il est trop bon, il écoute trop, toujours de l'avis du dernier. Alors, s'il est toujours de l'avis du dernier, mais ça va pas, au moins soyez déterminé. Et il vaut mieux la détermination par le genre, qui est une détermination fondamentale, que ces déterminations qui font que vous ne savez pas très bien. Et c'est vrai, s'il n'y a pas de finalité, vous ne savez pas. Vous êtes au gré des opinions. Et les opinions, ça change, surtout aujourd'hui. Et ça change vite. Donc, continuons de voir la bête et l'homme, le petit mélange des deux. Vous voyez ce vieux mythe, mi-bête, mi-homme. C'est vrai, il y a toujours ces... Poisson et homme, lion et homme, cheval et homme, c'est cette espèce de mythe. Il est habité par ça. Vous voyez, la droite intellectuelle d'aujourd'hui, hein, qui veut être plus droite que le mouvement Grèce, c'est la même chose. C'est très curieux. Pas de finalité, mais on retrouve les vieux mythes. Parce qu'il y a une stabilité là. Et c'est assez proche de ça. C'est assez proche. Parce que c'est pas un homme de gauche, Machiavel. Pas du tout. Alors, c'est pas un homme de droite, au sens tradition. Non. Mais c'est un homme qui veut gouverner. Il veut maintenir l'autorité à sa manière. Il veut maintenir ça. C'est pas du tout un homme de gauche. Hein. Pas du tout. Il n'y a rien du tout d'un homme de gauche. Il y a une espèce d'intelligence chez lui, une intelligence qu'il veut maintenir et qu'il veut maintenir avec la force. Une alliance entre les deux. Je vous dis, c'est pour ça, volonté de puissance de Nietzsche, hein, ça se retrouve assez bien. Machiavel en face de Nietzsche, ce serait assez intéressant de voir le dialogue entre les deux, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même cette volonté de puissance qui doit nécessairement s'enraciner dans quelque chose qui est la bête. Puisse donc qu'un prince doit savoir user de la bête, il en doit choisir le renard et le lion. Car le lion ne se peut défendre des raies, le renard des loups. Il faut donc être renard pour connaître les filets et lion pour faire peur aux loups. Ceux qui simplement veulent faire les lions, ils veulent être princes en étant des lions, hommes et lions. Ceux qui simplement veulent faire les lions, ils n'y entendent rien. Partant, le sage seigneur ne peut garder sa foi si cette observance lui tourne à rebours et que les causes qui l'ont induit à promettre soient éteintes. D'autant que si les hommes étaient tous gens de bien, mon précepte serait nul. Mais comme ils sont méchants et qu'ils ne te le garderaient pas, toi non plus, tu n'as pas à le leur garder. Non, ne gardez pas la parole à l'égard des méchants, puisqu'ils ne la gardent pas. Et jamais un prince n'a eu défaut d'excuse légitime pour colorer son manque de foi et s'en pourrait alléger infinit exemple de temps présent, montrant combien de paix, combien de promesses ont été faites en vain et mises à néant par l'infidélité des princes, et qu'à celui qui a mieux su faire le renard, ses affaires vont beaucoup mieux. Mais il est besoin de savoir bien colorer cette nature, bien feindre et déguiser. Et les hommes sont tant simples et obéissent tant aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Le principe que le prince a le droit de tromper, c'est le renard. Le renard, c'est celui qui trompe. Et en même temps, le lion, c'est celui qui sait sa dignité. Il est le roi des animaux. Donc le mélange, vous voyez ce que c'est, le trépied de Machiavel. Lion, renard, et puis l'homme, l'intelligence, l'habileté. L'habileté liée au lion et l'habileté liée au renard. Alors vous avez là un beau petit mélange. Cocktail machiavélique. Un exemple. Il y a d'entre eux les nouveaux que je ne veux laisser passer. Alexandre VI ne fit jamais rien que piper le monde et jamais ne pensa à autre chose, trouvant toujours sujet propre à se faire. Jamais ne fut homme qui eut plus grande efficacité. Et la plus grande efficacité. Jamais ne fut homme qui eut plus grande efficacité quand il donnait des assurances et qui affirma une chose avec plus grand serment, mais qui moins l'observa. Néanmoins, ses tromperies lui vinrent toujours ad votum, d'autant qu'il connaissait bien ce point. Il n'est donc pas nécessaire à un prince avoir toutes les qualités dessus nommées, mais bien il faut qu'il paraisse les avoir. Le paraître passe avant l'être. Et même, j'oserais bien dire que s'il les a, qu'il les observe et qu'il les observe toujours, elle lui porte dommage. Vous retrouvez la dialectique, vous savez, dans Platon, comment la justice ne porte pas bonheur. Le juste, là on voit Platon, vous voyez le livre de Job, vous voyez Machiavel. C'est toujours le même dialogue. Si vous regardez le point de vue de l'efficacité, ce n'est pas la justice qui va dominer. Non, sûrement pas. Il y a une option où vous regardez la finalité et l'amour, où vous regardez l'efficacité. Et l'option machiavélique, c'est l'efficacité. C'est ça l'essentiel, c'est l'efficacité. Alors l'efficacité, pour avoir cette efficacité, il faut prendre les moyens. Il n'est donc pas nécessaire à un prince d'avoir toutes les qualités dessus nommées, mais bien il faut qu'il paraisse les avoir. Et même, j'oserais bien dire que s'il les a et qu'il les observe toujours, elles lui portent dommage. Mais faisant beau semblant de les avoir, alors elles sont profitables. Donc le paraître est plus efficace que l'être. Ça, c'est à méditer. Hein. Parce que là, on retrouve tout à fait le point de vue de Platon au début de la République sur la justice. Le paraître est plus efficace que l'être. Je crois qu'il faudrait préciser, hein, une efficacité à long terme, une efficacité à court terme. Il est évident que l'efficacité de l'homme est toujours un peu à court terme, parce que je ne vis pas en face de l'éternité. Si je vis en face de l'éternité, l'efficacité à long terme repose sur l'être, sur les vertus. Mais l'efficacité à court terme, c'est le point de vue du paraître. Mais faisant beau semblant de les avoir, alors elles sont profitables. Comme de sembler être pitoyable, fidèle, humain, intègre, religieux, et de l'être, mais arrêtant alors ton esprit à cela, que, s'il faut ne l'être point, tu puisses et saches user du contraire. Et il faut aussi noter qu'un prince, surtout quand il est nouveau, il insiste beaucoup, ça, hein, on voit très bien, ça c'est le petit conseil qu'il donne au prince nouveau, donc l'éducation d'un prince. Il faut aussi noter qu'un prince, surtout quand il est nouveau, il ne peut bonnement observer toutes ces conditions par lesquelles on est estimé homme de bien, car il est souvent contraint, pour maintenir ses états, d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Ce pourquoi il faut qu'il ait l'entendement prêt à tourner selon que les vents de fortune et variation des choses lui commande. Et comme j'ai déjà dit, ne s'éloignez pas du bien s'il peut, mais savoir entrer au mal s'il y a nécessité. Engagez-vous très nettement du côté du mal s'il y a nécessité. Le prince doit donc soigneusement prendre garde que jamais ne lui sorte de la bouche propos qui ne soient pleins des cinq qualités que j'ai dessus nommées, et sembler à qui loi et voix toute miséricorde, toute fidélité, toute intégrité, toute religion. Et il n'y a chose plus nécessaire que de sembler posséder cette dernière qualité, la religion. Les hommes en général jugent plutôt aux yeux qu'aux mains. Ça, c'est aussi intéressant. C'est le point de vue Machiavel. Il y a des petits principes de Machiavel qu'on pourrait relever, tous les petits principes de Machiavel. Ce sont des principes d'ordre tout à fait pratiques, mais qui donnent derrière toute une anthropologie. Alors voyez cette chose curieuse. Les hommes en général jugent plutôt aux yeux qu'aux mains. On voit très bien. La main, c'est le réalisme. Les yeux, ça dit bien. C'est les idéologies. Car chacun peut voir facilement, mais sentir bien peu. Tout le monde voit bien ce que tu sembles, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. Et ces peu-là n'osent contredire à l'opinion du grand nombre. Second principe, qui est extrêmement vrai. Les gens qui jugent bien, quand ils sont en face d'une multitude qui a une opinion fausse, n'osent rien dire. À cause du nombre. Et ces peu-là n'osent contredire à l'opinion du grand nombre, qui ont de leur côté la majesté de l'État et qui les soutient. Et pour les actions de tous les hommes, et spécialement des princes, car là on en peut appeler à autre juge, on regarde quel a été le succès. Qu'un prince donc se propose pour son but de vaincre et de maintenir l'État. Les moyens seront toujours estimés honorables et loués de chacun, car le vulgaire ne juge que de ce qu'il voit et de ce qui advient, les effets. Le vulgaire, ce qu'il voit et les effets. Or, en ce monde, il n'y a que le vulgaire. Et le petit nombre ne compte point, quand le grand nombre a de quoi s'appuyer. Un prince de notre temps, lequel il n'est bon de nommer, ne chante d'autre chose que de paix et de foi. Et de l'une et de l'autre, il est très grand ennemi. Et de l'une et de l'autre, s'il l'eût bien observé, lui eût souvent ôté ou son prestige, ou ses états. C'est net, hein ? Et c'est dit avec une espèce de verdeur étonnante. Pouvoir dire ça comme ça, et décrire ça au prince. Et dire, voilà, deux choses. Vous voulez régner ? Un seul moyen. Pas d'autre moyen. Vous voulez être un homme, un saint ? Vous serez rejeté. Vous voulez vivre selon les vertus ? Vous serez rejeté. Les vertus n'ont pas d'efficacité au niveau politique. C'est ça que ça veut dire. Les vertus n'ont pas d'efficacité au niveau politique. Pourquoi ? Parce que vous êtes en face du vulgaire. Ce que Cicéron appelle la masse, la multitude. Et la multitude et le vulgaire, eh bien, n'entend pas le point de vue de ce qui est, donc de la vertu, n'entend que le paraître. Pour manier le vulgaire, c'est ce qui paraît. Parce que le vulgaire met avant les yeux que la main. C'est joli du reste, ça, hein, point de vue conception de l'homme. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est la disparition complète de l'humain face à l'efficacité. L'humain disparaît complètement. Le point de vue de la finalité disparaît complètement. C'est l'apparaître qui commande tout. L'apparaître qui va être ce qui doit tout prendre. Alors, chapitre suivant, qu'on doit se garder d'être haï et méprisé. Ça, c'est très important pour lui. C'est au fond, du côté négatif, peut-être l'aspect sur lequel il tient le plus. Il ne faut surtout pas que le prince soit haï. Parce que si on éveille la haine, alors, sûrement, ça va conduire au meurtre. Donc, il ne faut surtout pas qu'il soit haï. Et surtout pas qu'il soit méprisé. Alors, je prends un autre passage qui me semble intéressant aussi. C'est sur la miséricorde. Chapitre 18, 343. Mais puisque des qualités desquelles j'ai ci-dessus fait mention, j'ai parlé des plus importantes. Je veux discourir des autres brièvement, sous cet aspect général, à savoir que le prince doit penser, comme j'ai auparavant dit en partie, de fuir les choses qui le font tomber en haine et mépris. Et toutes, et quant aux fois qu'il ne faillira point en cet endroit, il aura bien besogné et ne se trouvera point en danger pour les autres maux, pour les autres mauvais renoms. Sur toute chose, ce qui le fait le plus haïr, comme j'ai dit, c'est de piller les biens et prendre à force les femmes des sujets. De quoi il se doit abstenir. Mais vous voyez, pas du tout par vertu. C'est pour ne pas être méprisé et haï. C'est pour ne pas être rejeté. Donc, c'est l'aspect négatif qui commande la vertu. C'est une morale négative, si vous voulez, qui commande ce point de vue-là. Je crois que c'est peut-être suffisant de vous prendre.
Très bien.
Je lis simplement le terme de cela. C'est toujours dans ce lancer. Il résume tout le temps. Hein. Partant un prince nouveau dans une principauté nouvelle ne peut imiter les faits de Marc, ni ne doit nécessairement suivre ceux de Sévère, mais il doit prendre de Sévère ce qui est expédient à bien fonder ses états, et de Marc les choses qui sont convenables pour conserver avec gloire une seigneurie déjà bien stable et assurée. Alors, il y a ensuite le point de vue. Ça, c'est le point de vue des vertus. Et ça se termine comme ça. Après, c'est la question des réalisations. Alors, savoir s'il faut construire des forteresses et des citadelles, c'est moins intéressant. C'est l'aspect de la stratégie. Alors, c'est très curieux. Et c'est très intéressant de voir ça. Est-ce qu'un prince doit fortifier son état? Stratégie militaire, en quelque sorte. Alors, il montre que ces forteresses, c'est très bien. Mais quand l'ennemi les prendra, ça retournera contre vous. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est très curieux. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus souple pour que ça vous reste toujours de votre côté. Alors là, il y a tout un aspect qui serait intéressant du côté du Facere. Ça, je ne veux pas le regarder. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui restait de la morale chez Machiavel. Ce qui reste de la morale, c'est uniquement commandé par le fait « ne soyez pas haïs, ne soyez pas méprisés pour vous maintenir le plus longtemps au pouvoir. » C'est ça qu'il faut, pour vous maintenir le plus longtemps au pouvoir. Donc, vous voyez bien, toute la morale est mesurée par l'efficacité. Ça, je crois que là, on a un exemple le plus intelligent. Il faut bien le dire, le plus habile, mais d'une habileté très particulière, de volonté de puissance.